de la lettre de Paul aux Corinthiens. Avec le chapitre 7.
And we're going to read chapter 7.
Jusqu'à présent,
up to this moment,
Paul s'était occupé de problèmes, de péchés dont il avait entendu parler dans l'église de Corinthe.
Paul had been devoting himself to the problems and the sins that were present in the church of Corinth.
Vous vous souvenez, il y avait des problèmes de division.
As you remember, there were problems of division.
Il y avait ce qu'on on pourrait appeler une guerre des clans.
There was also what we might call the sectarian war.
Il y avait ceux qui étaient pour Apollo, ceux qui étaient pour Paul, ceux qui étaient pour Pierre, ceux qui étaient pour Jésus.
Different people seemed to follow different apostles.
Il y avait aussi beaucoup d'orgueil et de fierté dans leur rapport entre eux.
There was a lot of pride in the relationships that people had within the church.
Ils essayaient de se mettre au-dessus des autres en s'associant à tel ou tel prédicateur. Et puis il régnait aussi l'immoralité sexuelle. Et plus grave peut-être, c'était le laxisme, le laisser-faire des responsables. Ils n'exerçaient pas la discipline nécessaire. Ils avaient plutôt tendance à se vanter de leur largeur d'esprit. Puis il y avait aussi des procès entre chrétiens devant les autorités païennes. Il avait parlé de tous ces problèmes. Maintenant nous allons voir qu'il répond à des questions précises que les Corinthiens lui ont envoyées par une lettre. Au verset 1 du chapitre 7, il dit « Passons à ce que vous m'avez écrit, il est bon pour l'homme de ne pas toucher de femme. »
So, in chapter 7, we read verse 1, it says « Now for the matters you wrote about, it is good for a man not to marry. »
Au début du chapitre 8, il va commencer en disant « Pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons tous que nous avons de la connaissance, etc. »
In chapter 8, the first verse, he says « Now about food sacrificed to idols, we know that we all possess knowledge. »
Chapitre 12, il va commencer en disant « Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. » Chapitre 16, il commence en disant « Pour la collecte en faveur des saints, agissez vous aussi, etc. » Donc il va répondre à des questions. Et il est important de bien comprendre parce qu'on ne peut pas s'attendre à ce qu'il traite complètement des sujets qu'il évoque. Et il faut mettre ses réponses en relation avec son enseignement par ailleurs pour se faire une idée exacte de ce que la Bible nous dit. Nous avons vu dans le chapitre 6 que Paul avait expliqué pourquoi les relations sexuelles ne devaient pas se produire en dehors des liens du mariage. Il nous disait « Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous n'êtes pas à vous-même. » Car vous avez été rachetés à grand prix, le prix de la mort du Fils de Dieu. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Et maintenant, on va voir que dans le chapitre 7, il va répondre de façon très directe et très franche sur des questions concernant le mariage, le célibat, le divorce. Et là, encore une fois, il est frappant de remarquer que la Bible n'a aucune pudibonderie, fausse modestie, aucune honte à parler ouvertement de la sexualité.
sexuality.
Encore une fois, je le répète, c'est l'idée de Dieu, la sexualité des hommes et des femmes. C'est un cadeau que Dieu nous a fait. Et bien sûr, l'ennemi essaye de corrompre ce cadeau, d'en faire une source de péché, une source de chute. Nous allons lire ensemble les versets 1 à 16, 1 à 10 d'abord. Je lis dans la version à la colombe. Passons à ce que vous m'avez écrit. Il est bon pour l'homme de ne pas toucher de femme. Toutefois, à cause des occasions d'inconduite, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et de même la femme à son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez pas l'un de l'autre, si ce n'est momentanément d'un commun accord, afin d'avoir du temps pour la prière. Puis retournez ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Je dis cela comme une concession, non comme un ordre. Je voudrais que tous les hommes soient comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. Mais s'ils manquent de continence, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler. Nous allons nous arrêter là pour l'instant. Il est bon pour l'homme de ne pas toucher de femme, lit-on au verset 1. La traduction de certaines traductions, comme la traduction en anglais, parle au lieu de dire de ne pas toucher de femme, de ne pas se marier. Mais en fait, c'est vrai que toucher, c'est un euphémisme, une façon délicate de parler, d'avoir des relations sexuelles avec une femme.
So if in some translations it speaks of man must not touch a wife, it's just speaking about the sexual relationship.
On trouve le mot utilisé dans ce sens dans plusieurs endroits dans la Bible. Et quand on lit ce premier verset, on pourrait penser que Paul dit il est bon pour un homme de ne pas avoir de relations sexuelles avec une femme. Point final. Et donc Paul serait un défenseur du célibat, du rendurci. Et on verra plus loin que Paul dit les raisons pour lesquelles le célibat peut être préférable au mariage pour le service de Dieu. Mais nous savons tous que le mariage a été institué par Dieu. Vous vous souvenez le livre des commencements, le livre de la Genèse? Où Dieu disait, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui sera son vis-à-vis. Et puis plus loin, il disait, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Alors là, on peut se demander, peut-être que Paul était en désaccord avec la Genèse. Il y a une question qui se pose tout de suite, c'est de savoir, est-ce que Paul était marié lui-même? Au verset 7 et 8, il nous dit clairement que, pour l'instant, lorsqu'il écrit cette lettre, il n'est pas marié. Je voudrais que tous les hommes soient comme moi, que chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre de l'autre. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi, donc sans être mariés. Mais les spécialistes bibliques pensent qu'en fait Paul a dû être marié plus jeune. Et pour cela, il parle de deux raisons. La première, c'était la tradition juive. Un juif, s'il était religieux, s'il était pieux, s'il était vraiment juif, il devait se marier dès l'âge de 18 ans. Et il pensait que si un homme ne se mariait pas et n'avait pas d'enfant, on disait qu'il avait tué sa prospérité. Je me souviens, quand j'étais enfant, j'avais des vieilles tantes en Corse. Qui essaie de me mettre la pression pour avoir des enfants quand je serai grand. Parce que j'étais le dernier descendant de la lignée de la famille qu'elle connaissait. Elle ne voulait pas que la famille s'arrête. Et puis, c'est vrai que quelque part, je me disais, peut-être qu'il n'y aura plus jamais de Petrignani. Jusqu'à ce que je rencontre dans la région, à Gatière, un exploitant agricole, un vieux monsieur de 82 ans, qui avait une jeune femme de moins de 30 ans, à qui il avait fait une dizaine d'enfants qui s'appelaient tous Petrignani. Mais refermons la parenthèse, tout ça pour dire que qu'un juif, il devait avoir des enfants, il devait se marier. Dieu avait donné un commandement au début, dans la Genèse. Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Et nous savons que Paul suivait les traditions juives, les commandements, avec le plus grand scrupule avant d'être chrétien. Par exemple, dans Actes 26, il disait « J'ai vécu en pharisien selon le parti le plus rigide de notre religion. » Dans Galates, il dit avoir eu un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Donc, premièrement, la tradition juive, un homme bien portant devait se marier. Un deuxième élément, c'est qu'il il est dit dans Actes 26, 10, on peut regarder. Lorsqu'il parle devant Agrippa, le roi Agrippa, et qu'il parle de la façon dont il persécutait les chrétiens, il dit au verset 10, « J'ai moi-même enfermé dans les prisons beaucoup de saints, c'est-à-dire de chrétiens, après en avoir reçu le pouvoir des principaux sacrificateurs, et quand on voulait les faire mourir, j'apportais mon suffrage. » Donc ça voulait dire qu'il votait pour les décisions religieuses. Il apportait son suffrage. Il était membre du système judiciaire juif. Il devait appartenir au Sanhédrin, cette cour de justice officielle. Une cour juive que les Romains toléraient pour les affaires religieuses. Pour un membre de cette cour de justice, il fallait être marié et avoir des enfants. Le problème, c'est que nulle part, Paul ne fait mention de sa femme. On en est donc réduit à des incertitudes. Et peut-être qu'il faudra attendre de nous retrouver avec Paul au paradis pour savoir si à côté de lui il y a une Paulette. On peut se dire, et beaucoup disent qu'en fait Paul était un macho, qu'il était contre le mariage. Et quand on lit ce premier verset, il est bon pour l'homme de ne pas toucher de femme, et c'est vrai qu'on peut penser que c'était un macho invétéré. J'ai même lu des traités de psychanalyse sur le machisme de Paul. Écrit aux États-Unis, bien sûr.
People that did psychoanalysis on Paul, written by Americans.
Encore une fois, Paul, il faut, pour connaître sa position inspirée, encore une fois, c'est la Bible, c'est pas les opinions de Paul, on y reviendra. Et tout ce qu'il écrit ici, c'est dans le cadre des questions qu'on lui pose, dans le cadre des circonstances particulières de Corinthe. Mais par ailleurs, nous savons que Paul parle du mariage comme d'une image de l'union que l'Église aura avec Christ. Dans Éphésiens 5, 22 et suivant, où il dit que la femme doit être soumise à son mari comme le mari est soumis à Christ. Que le mari doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église en donnant sa vie pour elle. Paul n'est pas contre le mariage. Dans un passage dans Timothée, il dit même que l'interdiction de se marier sera un signe de la fin des temps. Et nous verrons plus loin dans le passage qu'il encourage même le chrétien avec le non-chrétien à rester mariés s'ils sont mariés déjà. Et c'est vrai que l'Église catholique a quelque part enseigné que le célibat, c'était une forme de vie plus méritoire, plus consacrée, entre guillemets, que le mariage. Il est dit par exemple dans Hébreux que le mariage soit honoré de tous. Ça, c'est dans Hébreux 13, 4. Que le lit conjugal soit exempt de souillure, car Dieu jugera les débauchés et les adultères. 13, 4. Donc que faire avec ce premier verset qui semble affirmer que le célibat c'est de loin préférable au mariage? En fait, je crois qu'il y a simplement un petit problème de traduction. Si vous avez déjà vu des manuscrits de l'Ancien, du Nouveau Testament qui datent des 1er ou 2e siècle, vous pourrez voir qu'en fait tout était écrit en lettres majuscules sans ponctuation, sans séparation entre les mots. Il n'y avait donc pas l'équivalent des guillemets pour indiquer qu'on rapportait des propos d'autrui. Et donc c'est au traducteur de faire la différence entre ce que dit l'auteur et ce qu'il rapporte et comme étant dit par quelqu'un d'autre. Vous souvenez, nous avions vu dans le chapitre 6 ce verset qui disait « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. » Et en fait, nous avions dit que lorsqu'il disait tout m'est permis, il rapportait leur slogan de liberté en Christ. Et nous avons dit qu'en fait, Paul disait oui, tout est permis, vous avez la liberté, mais dans les limites de ce qui est bon pour les autres et de ce qui est bon pour vous. Puis plus loin, nous avons vu qu'ils utilisaient aussi un autre slogan qui était « Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments ».
We'll say,
Et ça, en fait, ils utilisaient ce raisonnement pour dire nos corps sont faits pour avoir des relations sexuelles, donc les relations sexuelles sont faites pour le corps. Autrement dit, pas de restreinte dans ce domaine, c'est naturel, pourquoi se priver? Et donc la traduction correcte, à mon avis, c'est de mettre des guillemets entre « il est bon pour l'homme de ne pas toucher de femme » pour encadrer ce verset, cette partie du verset. Alors là, peut-être vous demandez pourquoi je fais toute cette explication, parce que certaines versions de la Bible, comme la Bible en français courant, la Bible du Semeur, la Bible Shuraker, Shuraki, c'est joli ça, Shuraker, Parole vivante, utilise cette approche de mettre cette phrase entre des guillemets. Et donc, on pourrait dire, par exemple, la Bible en français courant dit « J'en viens à présent aux questions que vous m'avez posées dans votre lettre. Deux points, entre guillemets. C'est une excellente chose, dites-vous, qu'un homme se passe de femme. » Fermez les guillemets. Et Paul, ensuite, dit « Non, toutefois, à cause des occasions d'inconduite, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. » Autrement dit, il ne dit rien contre le célibat, et on va voir plus loin qu'il pense que ça peut être une très bonne chose. Mais ici, il dit à cause des temps, par les temps qui courent à cause de l'immoralité ambiante, il vaut beaucoup mieux être marié, avoir des relations conjugales dans le mariage. Que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Ça, ça rappelle que le mariage, c'est la monogamie. Et que le mariage, c'est l'hétérosexualité. Désolé, mais il n'y a pas de trace de pax homosexuel. Et c'est vrai que si les gens sont tellement militants, c'est souvent parce que quelque part ils savent que c'est mal. Quand il y a ce grand défilé mondial, le World Gay Pride à Rome même, on ne peut pas me dire qu'il n'y a pas de provocation. Ça montre simplement l'état de la moralité dans notre monde occidental de début du XXIe siècle. Verset 3, que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et de même la femme à son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. J'aimerais que vous réalisiez bien l'aspect révolutionnaire de ces propos à l'époque où Paul écrivait ces lignes. Parce que dans la société de l'époque, la femme était considérée un peu comme du cheptel, un peu comme du bétail. Et ici, Paul introduit l'idée d'une réciprocité dans la relation d'homme et femme. Il parle même du devoir que la femme a envers le mari et du devoir que la femme a envers son mari. Le devoir conjugal qui insiste donc sur la réciprocité. Le mot traduit devoir signifie ce qui est dû comme une dette. C'est le même mot que Paul utilisait lorsqu'il disait qu'il fallait payer les impôts au gouvernement. Rendez à chacun ce qui lui est dû, la taxe à qui vous devez la taxe, l'impôt à qui vous devez l'impôt, etc. Et donc, les relations sexuelles sont comme une dette dans le mariage. Mais il faut bien avouer que ça devrait être une dette beaucoup plus agréable à payer que les impôts. Et Paul va devenir très pratique. Ne vous privez pas l'un de l'autre si ce n'est momentanément d'un commun accord afin d'avoir du temps pour la prière, puis retournez ensemble de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Il y en a peut-être qui disent « Ah, voilà le verset que j'attendais. » S'il y a des problèmes au niveau de la sexualité dans le couple, on peut se dire « Voilà, j'ai trouvé mon verset. » Et la femme comme le mari peuvent utiliser ce verset pour exercer une pression spirituelle. Mais j'aimerais tout de suite clarifier qu'il n'en est pas question. L'esprit même de tout le passage, c'est l'amour de l'un pour l'autre. Et un peu de même qu'on ne peut pas dire à sa femme qui ne se soumet pas à nous, il est dit, tu dois te soumettre à moi. Encore une fois, c'est à Dieu de travailler dans le cœur de la personne et de la convaincre du bien fondé de ses commandes. Et c'est vrai que trop souvent, la satisfaction sexuelle dans le mariage est utilisée comme une arme. Et là, il dit, ne vous privez pas l'un de l'autre. Souvent, on apprend autant en lisant ce qui n'est pas là qu'en lisant ce qui est là. Il n'est pas dit, ne vous privez pas l'un de l'autre. Sauf si l'un d'entre vous a une migraine. Si l'un d'entre vous est en colère.
Or when one of you is angry.
Si l'un d'entre vous veut se venger de l'autre. Non, il donne simplement un cas. Une exception à cette règle d'être disponible pour son époux ou son épouse. L'abstinence, c'est trois conditions.
There are three conditions for this abstinence.
Il faut que ce soit par consentement mutuel.
It has to be by mutual consent.
Autrement dit, en symphonie.
It means that both have to decide together.
C'est le mot symphonie qui est utilisé dans le grec. Il faut que ce soit pour une raison importante. Encore une fois, ce n'est pas pour manipuler. Mais c'est pour se consacrer à la prière. Un peu comme on peut jeûner, c'est-à-dire s'abstenir de prendre de la nourriture pendant un temps pour pouvoir avoir plus de temps, de consécration à la prière. De la même façon, on peut s'abstenir de relations conjugales. Et le troisième point, c'est que ça doit être pour une période brève. Remarquez que Paul ne fait pas comme les magazines qui nous donnent des sondages et des statistiques précises. Une période brève, c'est aux époux de s'entendre sur ce que ça signifie.
This brief period has to be decided upon by the partners.
Et la raison, c'est pour ne pas introduire de tentation dans le couple. Pour que l'un des époux soit tenté d'aller se satisfaire avec quelqu'un d'autre, ou ailleurs. Car il dit encore, il fait attinence, mention de Satan qui nous tente par notre incontinence. Il parle de Satan. Pierre nous dit que Satan est comme un lion, notre adversaire est comme un lion qui rôde, rugissant. Cherchant qui dévorer.
And he's looking for someone to devour.
Et il peut corrompre ce désir légitime.
And he can corrupt this, legitimate desire.
Pour en faire une occasion de chute et de ruine.
And use it to make an occasion for sinning.
Que ce soit la ruine par la maladie, par la... le divorce, les enfants abandonnés. L'un de l'autre. Serait mieux traduite par cesser de vous priver l'un de l'autre. Parce que on pense que parmi les Corinthiens, beaucoup pensaient qu'il était plus spirituel de rester célibataire que de se marier. Et d'autres pensaient qu'il était plus spirituel, si on était marié, de s'abstenir des rapports conjugaux. Et Paul voit les dangers qu'il peut y avoir et il veut corriger cela. Alors le verset 6, je dis cela comme une concession, non comme un ordre. Il y en a peut-être parmi vous qui disent, zut alors, il casse tout là. Ça... Non, c'est un conseil que Paul donne aux couples mariés. Mais pour lui, si on veut servir le Seigneur, comme il le fait, ce n'est pas le meilleur état. On peut penser, il y a d'autres passages dans ce chapitre 7, où il fait une différence entre les paroles du Seigneur, c'est-à-dire les paroles de Jésus-Christ, et les siennes. Verset 10. Il dit à ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur. Et au verset 12, il dit aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui le dis. Alors on pourrait penser que peut-être il a moins d'autorité que Jésus-Christ. Mais il faut bien comprendre que toute parole est inspirée par Dieu, toute la Bible est inspirée par Dieu. Et en fait, il dit simplement, lorsqu'il s'agit des paroles de Jésus-Christ, ce sont des paroles que Jésus a prononcées lui-même, qui ont été rapportées dans les évangiles. Mais lorsqu'il nous donne son avis est aussi inspiré que l'avis de Jésus-Christ. Et il dit même à la fin du chapitre 7, il parle encore de son avis, verset 40. Mais il ajoute, « Or moi aussi, je pense avoir l'Esprit de Dieu. » Et je me souviens que lorsque j'étais jeune chrétien, on m'avait donné une Bible où les paroles de Jésus-Christ étaient imprimées en rouge. Et lorsque j'assistais à quelques premières réunions d'études bibliques, quand j'étais pas d'accord avec ce que disait Paul, Je disais, oui, mais attention, ça, c'est pas en rouge, donc ça compte pas. Non, toute la Bible est inspirée, toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice, comme dit Paul dans 2 Timothée 3:16. Et verset 7, il vote pour le célibat. Je voudrais que tous les hommes soient comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Ici, il recommande donc le célibat. Mais il ne dit pas que c'est plus spirituel. Il évoque l'idée, il nous donne l'information qu'en fait c'est un don de Dieu. Il y a certaines personnes qui ont le don d'aller dans le mariage et d'autres qui ont le don de rester célibataire. Tournons-nous ensemble dans Matthieu 19:4. Et voir justement certaines de ces paroles en rouge. À partir du verset 4, il répondit, « N'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme et qu'il dit, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. » Une directe citation de la Genèse. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il commandé de donner à la femme un acte de divorce et de la répudier ? Il leur dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis, quiconque répudie sa femme, sauf pour infidélité, et en épouse une autre, commet un adultère. Ses disciples lui dirent, si telle est la responsabilité de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantagé de se marier. Il leur répondit, et voilà le passage qui se rapporte à notre texte dans 1 Corinthiens 7, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Car il y a des eunuques qui le sont dès leur sein de leur mère, donc il y a des gens qui naissent sans besoin sexuel, pour des malformations ou des configurations physiques, des eunuques qui le sont dès le sein de leur mère. Il y en a qui le sont devenus par la main des hommes. Ça, c'est une référence à la pratique de la castration qui se pratiquait chez des esclaves et chez d'autres personnes. Et puis, il y en a qui se sont rendus eunuques à cause du royaume des cieux. C'est-à-dire, il y en a qui acceptent de vivre en dehors du mariage, en dehors des relations avec un homme ou une femme. Que celui qui peut comprendre, comprenne. Maybe you can read just the last.
Just verse 12. Mm-hmm. Here I read from, as from verse 4, or if you read just verse 12. From some are eunuchs because they were born that way. Others were made that way by men. Others have renounced marriage because of the kingdom of heaven. The one who can accept this should accept it.
Donc, s'il avait le choix pour servir le Seigneur, encore une fois, vis-à-vis des conditions de Corinthe, il leur dit au verset 8, à ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je leur dis qu'il est bon de rester comme moi, célibataire, non marié. Nous verrons plus loin, il expliquera en détail les raisons qui font que d'être divorcé, ça permet de servir davantage le Seigneur. Et la question que peut-être vous vous posez, mais c'est comment savoir si on a le don du mariage ou le don du célibat ? Je crois que ça dépend comment vous vivez votre célibat ou le mariage. Une fois que vous êtes marié, il n'y a plus de retour en arrière, d'après la Bible. Désolé. Mais pour les célibataires, Est-ce que le fait de ne pas être marié pose un réel problème? Est-ce que c'est quelque chose qui pèse dans votre vie?
Does the fact that you are not married represent a weight in your life?
Est-ce que, peut-être vous avez un fort désir de relations sexuelles?
Maybe you have a very strong desire for relationships.
C'est ce qu'il dit, s'il manque de continence, verset 9, mais s'il manque de continence, c'est-à-dire de contrôle de soi, de la capacité de se passer de relations conjugales, il dit donc qu'il se marie, si c'est le cas, car il vaut mieux se marier que de brûler. Sous-entendu, brûler de passion, de désir sexuel. Et ça, vous pouvez peut-être faire une croix. Souligner.
You can underline that.
C'est vrai que je pensais l'autre jour que l'expression faire une croix sur quelque chose est trompeuse. Ça, c'est une parenthèse. Parce que l'homme aurait pu faire une croix sur les hommes, nous abandonner. Mais il a mis une croix pour les hommes, à l'inverse. Refermons la parenthèse. Je veux dire, souligner ce verset, c'est le verset clé pour expliquer qu'on ne peut pas avoir de relations sexuelles en dehors du mariage. Souvent, les gens utilisent les versets qui disent qu'il faut s'abstenir de l'immoralité sexuelle. Et c'est vrai que ça va exactement dans le même sens. Mais le mot immoralité sexuelle est très relatif. Preuve, s'il était, les aventures de Clinton.
Bill Clinton's adventures.
Il disait qu'il y avait certaines choses qui étaient vraiment immorales et puis d'autres qui l'étaient moins. Mais là, il nous dit, si vous avez des forts désirs sexuels, il ne dit pas, trouvez-vous une petite amie.
He doesn't say, go and get a girlfriend.
Il dit, mariez-vous.
He says, get married.
Encore une fois, uniquement dans le cadre du mariage, Dieu peut-il bénir les relations qu'il a créé entre hommes et femmes. Nous allons peut-être nous arrêter là parce que le reste, à partir du verset 10 à 16, va parler d'un sujet qui touche beaucoup de monde. Qui parle des mariages qui ont des difficultés. Des divorces.
Divorce.
Et là aussi, les cas de figure sont complexes. Nous savons que Dieu a horreur du divorce.
We know that God does not desire divorce for us.
Nous devons tout faire pour l'éviter.
We should do everything we possibly can to avoid it.
Le divorce n'est pas le péché impardonnable. Et nous devons prier pour que le Seigneur nous protège personnellement, mais aussi en tant qu'assemblée. Pour que dans tous ces domaines complexes, nous ayons des attitudes qui honorent Dieu. Nous allons donc nous arrêter là, prier et avoir un temps de communion. Encore une fois, c'est une idée à moi, mais je crois que Dieu nous a donné les relations du mariage. Où nous pouvons vivre une intimité très profonde. Comme un avant-goût de ce que sera l'intimité que Dieu aura avec nous.
This is the only thing that can actually give us that idea of what that intimacy with God will be one day.
Et c'est vrai que de galvauder, de corrompre cette belle image par tout ce que nous voyons dans notre société, ça doit retourner le cœur de Dieu qui nous a donné cette belle chose pour que nous ayons un avant-goût de ce qu'il a pour nous.
It's true that it must be terrible for God. It's really hurt him to see how this wonderful institution that he gave us is just totally being corrupted and destroyed by what we experience in our society today.
Prions.
Let's pray.
Seigneur, merci pour ces versets. Leur caractère très franc, très 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 honnête. Et nous, Seigneur, à recevoir cette sagesse dans nos cœurs, qu'elle nous protège des erreurs, Seigneur. Et Seigneur, lorsque nous voyons toutes ces erreurs possibles, nous voyons, Seigneur, que nous ne pouvons nous en remettre qu'à toi pour guider nos vies. Seigneur, nous te faisons confiance. Tu sais ce qui est bon pour chacun de nous, Seigneur. Tu nous le montres en ton temps. Tu pourvois. Et Seigneur, aide-nous à ne pas nous impatienter, à ne pas nous précipiter dans des relations qui ne sont pas voulues par toi, Seigneur. Demande de préserver les mariages de toute infidélité, Seigneur. Et fais que les mariages soient vraiment un reflet de ton amour, Seigneur. En ce temps où l'institution est battue en brèche, attaquée, fortifie les mariages, Seigneur. Par le nom de Jésus. Amen. Amen.